d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et L'Homme qui a vu l'ours, présente L'inframonde de Jennifer Hallé dans une traduction d'Étienne Lepage et dans une mise en scène de Maxime Perron.
On a une belle maison ici, Iris. Tu fais partie d'une belle famille dans laquelle tu occupes une place importante. On a aussi une communauté agréable, mais tu sais ce qu'on offre, qui est le plus important? Une vie en dehors de toute conséquence.
L'inframonde, du 14 mars au 1er avril 2023. Pour information ou l'achat de billets, premier acte.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Dur le réveil ce matin? Si t'es à l'écoute, c'est que tu t'évites probablement un cours à 8h30 ou un chiffre matinal au travail. Alors étends-toi, repose-toi et laisse l'équipe de l'Allongée t'accompagner pour ce réveil. Ce matin, on te sert une bonne tasse en compagnie de Félix-Antoine Audet, Édouard Dubois et William Amiot.
Bon début de journée, Québec. Très heureux de vous accompagner pour la prochaine heure et demie. Et je pense pas me tromper en vous disant qu'on a tout un show pour vous aujourd'hui. Et un show surtout très bien rempli. On ne manquera pas d'actualité, on ne manquera pas de stock. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de parler d'élections partielles, de la SAC encore, d'autres dossiers dans le même genre. Et j'aime ajouter une petite note de bas de page à notre introduction musicale habituelle qui dit, bon, si vous êtes à l'écoute, c'est probablement que vous avez pas de cours de 8h30 ou que vous ne travaillez pas. Ben là, ça se peut très bien que vous avez un cours de 8h30, c'est juste qu'il n'y en a pas parce que votre prof est en grève. On va d'ailleurs en parler avec la vice-rectrice de l'Université Laval, Katia Bergeron, va être avec nous aux alentours de 8h45. À 9h, Sol Zanetti, député de Jean Lesage pour Québec solidaire, sera avec nous pour parler du rapport de MEMS sur la qualité de l'air au Québec, à Québec précisément, particulièrement dans le secteur justement de Limoilou, de la Basse-Ville et de Vanier, qui sont les secteurs les plus affectés. Mais avant toute chose, faisons tout en ordre. Bonjour William.
Bon matin.
Comme à l'habitude, très heureux de t'avoir avec moi.
Ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait de show matinal, je m'ennuyais.
Oui, c'est ça, j'ai eu une petite semaine de relâche. Mais là, il y a quand même quelque chose de surprenant, il y a quelqu'un d'autre avec nous.
Salut.
Qui? Je sais pas, il y a quelqu'un qui est avec nous. Là. Voulez-vous vous présenter, vous?
Bonjour tout le monde.
Vous êtes qui, vous?
On est les trois, les boys.
Hey! C'est le retour.
Achetez-vous 649, on est tous là.
Le retour de l'équipe du mardi matin. Édouard Dubois qui est avec moi. Salut Édouard, comment vas-tu?
Salut, salut les boys. Ouais, ça va
bien. T'es-tu ennuyé de nous au moins?
Ah, oui, oui, oui. La bonne réponse, c'est oui, j'imagine.
Oui, la bonne réponse, c'est oui. Surtout quand j'ai le doigt sur ton micro.
Exact.
Très heureux de vous retrouver. Comme vous avez pu réaliser aussi, ben, on n'a toujours pas le thème de William.
Non, on attend.
On attend encore après la production.
C'est en production. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Il y a de la pénurie de main-d'œuvre dans tous les milieux.
Un matin, je vais vous arriver avec ça, vous allez vraiment être surpris.
Il a perdu sa carte.
Ça soit
mémoire.
Vrai.
Oui, c'est ça. Moi, je crois aucunement à ça, mais un matin, il va peut-être nous arriver avec ça pour
dernière
vrai.
Semaine de show. Hey, les boys, je
on
l'ai.
Le thème. C'est bon.
Après ça, on va
bon.
Avoir tout l'été pour l'oublier.
Ouais, bon. Exact. Avez-vous profité, chers petits étudiants, de votre semaine de lecture?
Oh mon Dieu, oui. Tellement.
Semaine de lecture, mais j'ai rien lu.
J'ai dormi.
C'est bon. Mais en même temps, ça, c'est pour avoir été dans ce bac-là aussi, là, la semaine de lecture pour les étudiants en com, c'est une semaine de relâche.
Oui,
oui. C'était une semaine de relâche. Là. Il y a certains étudiants qui doivent travailler un peu plus fort que vous et que moi dans le passé quand j'étais dans ce baccalauréat-là. Donc, semaine de relâche qui se termine. On est de retour depuis hier et on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Tournée d'actualité avec Édouard Dubois.
Vous l'avez probablement vu, là, ce drame à Amqui. Le bilan est toujours de 2 morts et 9 blessés. Cette camionnette qui a heurté de plein fouet des piétons dans la petite municipalité, oui, près de Rimouski. C'est 6 patients qui ont été transportés également par avion à Québec pour être traités en traumatologie à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Le CHU devrait donner une mise à jour en cours de journée sur l'état des patients. Le conducteur Steve Gagnon aurait, selon la Sûreté du Québec, agi délibérément. L'homme de 38 ans est présentement détenu par les policiers et devrait comparaître aujourd'hui.
On va en reparler, évidemment, là, dans quelques minutes.
Totalement. Les solidaires également l'emportent dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne. Guillaume Clich-Rivard, qui devance les libéraux de 2758 voix quand même, avec un taux de participation de 31%, qui est plus élevé que la reprise en 2015 de l'élection partielle dans la même circonscription. C'est un véritable château fort des libéraux qui a été battu. C'est la première fois que le PLQ ne l'emporte pas dans cette circonscription depuis 1990. Et également, bon, on va pouvoir en parler avec Sol Zanetti un peu plus tard.
Puis on vous dit, c'est un château libéral depuis 1990. C'est important de préciser que la circonscription n'existait pas avant
1990.
Donc, ça n'a jamais été perdu par les libéraux.
Totalement. Donc, également, la santé publique qui recommande de diminuer la capacité routière de la capitale nationale dans un rapport publié sur les problèmes de santé des habitants de Limoilou, la Basse-Ville et Vanier. Plusieurs recommandations qui ont été publiées, dont celle de prioriser la transition vers la mobilité durable et de réduire le volume de circulation, ce qui remet en doute également le projet de troisième ligne du gouvernement Legault. Encore une fois, on va en parler avec Sol Zanetti un peu plus tard. Et sur le plan énergétique, le gouvernement du Québec investit 60 millions de dollars pour agrandir son réseau de bornes de recharge partout sur les territoires. C'est un investissement qui devrait permettre d'ajouter près de 370 bornes de recharge rapide au Québec, qui en compte déjà 1200.
À la météo, William Amiot.
Un beau petit cocktail météo aujourd'hui. On parle de pluie, de neige. On attend environ 1 à 3 mm de pluie, moins d'un centimètre de neige au courant de la journée. On s'attend à un maximum de 3 degrés. Puis le reste de la semaine aussi, là, ça risque d'être assez changeant. On parle d'un petit peu de soleil pour jeudi, de la pluie et de la neige pour vendredi. C'est encore un petit peu loin, là, mais on s'entend pour un beau petit cocktail. Aujourd'hui, on attend un maximum de 3 degrés avec un minimum de moins 6.
Je l'ai dit hier, mais je suis peut-être étrange là-dessus. Moi, à ce moment-ci de l'année, là, je prie pour de la pluie.
Exact. C'est exactement ce que j'allais dire.
La plus fréquente possible. Je veux voir tout moton de neige sale disparaître de mes environs.
Puis moi, je le dis souvent, mais tu sais à quel point j'haïs l'hiver?
Oui, oui.
J'ai hâte de voir du gazon.
Même s'il est brun, lait, on a hâte de voir du gazon. À la circulation, bon, les gens semblent être revenus de relâche un peu. Là. Hier, c'était tranquille à souhait. Du côté de la rive sud, en direction de la rive nord, il y a un léger ralentissement à l'approche du pont Pierre-Laporte, mais sur le pont en tant que tel, vous êtes correct. Là où il va y avoir le ralentissement traditionnel, c'est bien évidemment sur Capitale en direction ouest, particulièrement. À partir de Beauport, déjà là, bien avant Bourg-Royal, vous êtes au rouge jusqu'à Laurentienne. En direction ouest, ça va vraiment mieux. Là. Il y a un léger ralentissement aux alentours de Robert-Bourassa, mais rien de notable particulièrement. Laurentienne-Nord, ralentissement en direction... Laurentienne-Sud, excusez-moi, force de l'habitude. À partir de boulevard Louis XIV, vous allez être au ralenti jusqu'à l'autoroute de la capitale. Mais c'est généralement un matin assez tranquille sur les routes de Québec. Profitez-en. Tu l'as mentionné, Edouard, c'est la première nouvelle, c'est celle qui a choqué tout le Québec hier soir. Ça se passe à Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent. Un cas d'attaque au bélier, là, c'est rendu étrange et triste à dire. Là. On commence à être un peu familier avec le concept. Là. Il y en a eu plusieurs dans les dernières années, que ce soit en Ontario, que ce soit du côté des États-Unis. On a vu ça dans les dernières années. C'est un autre cas. Ça semble, comme tu l'as dit, évidemment, on doit toujours y aller de supposition tant qu'il n'y a pas eu d'accusation formelle et d'inculpation. Mais ça semble être un geste délibéré de la part du conducteur. C'est très surtout, évidemment, j'ai mentionné d'autres cas. On n'oublie pas le tout récent à Laval, évidemment, avec l'autobus de ville. De ce qu'on en comprend, c'est même pas un groupe de piétons, donc on peut même pas y aller de justification de « Ah, ben c'est un groupe de gens qui aimaient pas » ou un groupe de gens pour une raison X, Y, Z, là, ethnique, sexuelle,
quoi que ce soit. Une intention aléatoire totalement.
Ça semble être une intention complètement aléatoire. Il allait sur le trottoir, frappait quelqu'un, ressortait, retournait sur le trottoir, frappait quelqu'un. Le fil le manège à quelques reprises sur une distance de 500 mètres quand de même. Ce qu'on nous donne comme information. absolument horrible avec un F-150. Là. Donc, on s'entend non plus, ça n'a rien pour aider le
dossier. C'est pas un petit dossier.
Non, ça frappe fort et ça frappe haut aussi, particulièrement. Pascal Bérubé, François Legault, la majorité de nos politiciens qui sont rendus sur place, François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique. Donc, beaucoup de choses qui sont surveillées. Comme tu l'as dit, 6 victimes qui sont transportées à Québec en centre hospitalier. 2 morts, 2 hommes plus âgés, un dans la soixantaine, un dans la soixante-dizaine, qui sont décédés. Tu l'as fait dans tes nouvelles et c'est bien, bien normal. Ça fait partie de ton travail. Comme dans la majorité de ces cas-là, rien qu'au cas que c'est la raison, la justification derrière ça, vous ne m'entendrez jamais prononcer son nom. Ouais. Parce que c'est malheureusement une réalité, là. Des gens qui font ce genre d'actes-là pour être, et j'utilise des très très gros guillemets, immortalisés dans les livres d'histoire.
On parle beaucoup de santé mentale aussi, là. Ça peut selon les dires, là, encore une fois, on est dans les oui-dire, on attend toutes les confirmations, là, mais probablement des problèmes de santé qui sont reliés à ça.
Ce qui est triste aussi, c'est que non seulement on va avoir des suppositions de problèmes de santé mentale de ce côté-là, mais ça peut en engendrer dans la population aussi. Parce que là, les gens, là, ça fait 2 en l'espace d'un mois, même pas, là. Les gens vont commencer à craindre que des événements arrivent comme ça. Puis c'est ça qui est plate aussi, c'est que, tu sais...
Je
pense
qu'on a beaucoup d'auditoires là, de Amqui là, qui nous écoutent en ce moment.
Non, mais la population en général, là, ouais.
C'est arrivé à Laval, c'est arrivé. Ouais,
ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Fait que là, je veux pas, on va avoir une espèce de peur qui va arriver puis qui va commencer.
Développer. Non, c'est vraiment particulier. Puis comme je te dis, effectivement, la théorie la plus populaire sur le cas de santé mentale, je prendrai juste pas le risque. De mon côté, vous n'entendrez jamais le nom de la personne responsable. Elle a été arrêtée, évidemment, pour homicide. On a très peu de détails, là. Évidemment, je peux pas vous en dire plus que ce qu'on sait pour le moment. S'il y a des développements dans le courant du show, on va vous tenir au courant.
Il devrait comparaître là, également aujourd'hui, là, donc ça va probablement débouler là, durant la journée pour ce qui est des informations qu'on... des oui-dire, en fait.
Donc, on suit ça de près, de la même manière qu'on avait suivi ça de près durant la situation à Laval. S'il y a des nouvelles informations, on vous tient au courant. Pour l'instant, continuons en parlant du dossier de la SAC, la Société des assurances automobiles du Québec, qui vit une crise sans précédent depuis le transfert informatique de ces dossiers qui avait suivi la fermeture temporaire de plusieurs semaines de ces bureaux. Beaucoup de blâme qui avait tombé sur Geneviève Guilbeault, évidemment ministre des Transports, relié à la SAC. Et depuis une semaine environ, on commence à en mettre une partie aussi sur le ministre de
cybersécurité.
Cybersécurité, merci. Éric Kerr, qui, bon, est techniquement en charge de la transition numérique du Québec, que ce soit au niveau de la SAAC, que ce soit au niveau du système de santé, du système judiciaire, ça tombe dans son ministère qui est tout récent, le ministère de la cybersécurité, qui a été créé il y a environ 1 an, si je ne m'abuse. Éric Kerr, qui commence à avoir un peu de blâme de son côté aussi. Et il s'est finalement un peu, je vais mettre des guillemets encore une fois, là, un peu admis qu'ils auraient pu faire mieux de son côté.
Hein, pour vrai?
Ouais. Puis encore là, je mets des guillemets parce qu'il l'a admis, mais l'a-t-il vraiment admis? Là? Il n'a pas dit nécessairement que son ministère était dans la faute. Je vous rappelle que lui, il met le blâme particulièrement sur la SAC.
Il disait qu'il n'y avait pas toutes les informations. Il disait que la SAC, tout est beau de notre côté, mais en fait, il y avait des signaux d'alarme un peu partout, ce que les oppositions demandent, une commission d'enquête là, pour,
exactement.
Pour éclaircir tout ça.
Il a confirmé qu'il serait présent donc à une commission d'enquête, qu'il il comprendrait bien évidemment que si on décidait d'y aller de cette méthode-là, du côté des partis d'opposition, il allait se présenter, il allait répondre aux questions. Donc, on verra bien ce qui s'est passé et si c'est le cas, si on avance dans ce dossier-là. On a aussi annoncé, sans grande surprise, là, qu'on allait poursuivre dans les mesures pour protéger les conducteurs, les automobilistes. On les avait déjà un peu annoncés, mais là, c'est pour les camionneurs québécois. On va s'assurer que si quelqu'un n'a pas eu le temps de refaire son permis, d'avoir ses immatriculations à jour, ben on va donner un sursis
de 90 jours, le même qui a été donné aux automobilistes. On a donc jusqu'au 12 juin pour faire mettre tous ces dossiers en ordre.
C'est comme de mettre un plaster sur un bobo qui est beaucoup plus grand. Là, tu sais, là, du côté de Caire, on envoie ça dans la cour de la SAQ, ouais. On envoie ça dans la cour. Tu sais, à un moment donné, là, va falloir qu'on mette les points sur les i.
Je comprends bien. Je dirais peut-être plus que c'est un plâtre qu'un plaster, là, dans le sens que tu peux pas encore bouger, mais au moins, tu laisses le temps au système de guérir. Tu donnes 90 jours au système pour se remettre un peu en place.
Le problème va juste se déplacer dans 90 jours, là.
Ben, j'ai l'impression, honnêtement, que...
Parce que les gens iront pas demain matin faire leur permis, là. Ils savent qu'il y a du monde à côté, il y a du monde partout. Ils vont délaisser ça, ils vont attendre, puis ça va juste déplacer pour qu'il y ait encore plus de monde, encore plus longtemps dans nos succursales.
Le but, bien évidemment, c'est d'assurer la transition sur les systèmes numériques. Le problème, c'est que les systèmes numériques ne fonctionnaient pas. Là, de ce qu'on entend, le système numérique est en train de reprendre du galon, en train de se replacer. La surdemande qu'il y a eu en lien avec les 3 semaines de fermeture de la SAAC a causé du trouble. Là, on réussit à reprendre le dessus un peu. On va avoir aussi des temps d'attente pour chaque centre. Il y a des employés supplémentaires qui ont été installés. On a des mesures en place qui, ça, pour moi, c'est des plasters. Mais en donnant le temps aux automobilistes, mais là, tu peux étirer un petit peu la période de grâce puis donner le temps au système de reprendre le dessus. Puis on va peut-être se rendre quelque part. Mais ça crée beaucoup d'inquiétude quand tu penses à quand on va avoir à faire cette transition-là. Pas pour nos permis de conduire, mais pour nos cartes assurance maladie et le système de santé, là, ça va être toute une autre paire de manches.
Ben, au moins, ils veulent essayer de rassembler toutes nos informations sous un même espèce de serveur. Ce qui ferait en sorte qu'une fois que tu as fait une demande, après ça, tu pourrais être pas si pire pour le reste.
L'idée, elle est bonne. Est-ce que l'exécution va l'être?
L'idée est bonne. Il reste à voir en exécution qu'est-ce que ça va donner.
Ça continue tout de même de nous montrer une seule chose, et ça, c'est l'incompétence flagrante des gouvernements, pas juste celui du Québec, du Canada ou autre, c'est la même chose en tout ce qui a trait à informatique.
Mais on se
c'est vraiment,
vite.
Vraiment frappant. Vraiment, vraiment frappant. On va aller en pause musicale sur les ondes de Chiz 94.3. Claude Lanthrope, Fille de bois. Restez des nôtres.
écoutez L'Allongée avec Félix-Antoine Audet, William Amiot et Édouard Dubois.
C'était un soir d'élection partielle hier dans le comté de Saint-Henri-Sainte-Anne et Québec solidaire a sorti la machine, là, c'est ce qu'on semble avoir compris, parce que un comté qui n'avait pas été si chaudement disputé qu'on aurait pu croire aux dernières élections, qui avait été remporté quand même assez confortablement par Dominique Anglade. Évidemment, bon, il y avait l'espèce de prime d'être chef de ton parti, mais dans une élection partielle, l'enjeu, c'est toujours faire sortir le vote. Parce que les gens sont pas vraiment motivés, il n'y a pas de campagne à la télé, il n'y a rien qui se passe, là, c'est vraiment dans les médias plus locaux. Donc, la partie de la population qui suit vraiment ça, les plus minces, on s'entend, qui est motivée par ça. 31% là, de participation, ça ressemble à des participations d'élections municipales. On s'entend que c'est minime, mais c'était une élection qui était clairement très, très, très importante pour Québec solidaire. Aller chercher un 12e candidat qui leur donne le statut sans avoir eu besoin. Ben là, ils ont quand même eu à faire ces négociations-là, mais tu n'as plus à avoir ces négociations-là. T'as le statut officiel de parti à l'Assemblée nationale avec 12 députés. Faudrait poser la question avec Sol Zanetti à savoir si ça va changer quelque chose dans le nombre de questions qu'ils ont le droit de poser, le nombre de le temps qu'ils ont, le budget qu'ils ont. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça, je suis curieux de le savoir. Mais c'est Guillaume Clich-Rivard, vous l'aurez compris, de Québec solidaire qui l'a emporté. Et quand même de façon plus que claire, là, 44,5% des suffrages du côté de Guillaume Clich-Rivard. On est à 28,96% des votes du côté du Parti libéral du Québec. Comme tu l'as dit, Édouard, plus tôt, un parti qui n'avait jamais perdu depuis la création de la circonscription.
Quand on dit Châteaufort, là, c'était des victoires des libéraux, mais de loin. Là,
claire et net.
On envoyait, pour la coalition Avenir Québec, Parti québécois dans les anciennes années, on envoyait nos petits joueurs là, dans ces circonscriptions-là. Et on n'avait aucune chance.
C'est hallucinant donc de voir ça tomber et par un tel écart. Et le constat pour moi qui en ressort, est-ce qu'on pousse peut-être un peu fort? Oui, mais ça semble quand même être le cas. C'est celui que Gabriel Nadeau-Dubois a publié sur sa page Facebook. C'est que Québec solidaire semble être, en termes de puissance électorale, probablement avec... Là, la montée du PQ, c'est peut-être un petit peu plus serré, un peu plus gris, là, mais probablement la deuxième puissance politique au Québec.
Ben, on l'a vu durant les dernières élections. À part la CAQ, les autres partis étaient pas mal similaires en termes de voix. Fait que là, eux autres soient capables d'augmenter leur voix ou d'augmenter leur puissance, ça va juste leur être positif et bénéfique. Là.
Parce que la machine solidaire s'est déployée là, dans Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est ce que les analystes politiques disaient. Là,
sur le logement, majeure partie, là, ça a été le cheval de bataille de la... Comme on dit, la question de l'urne,
oui.
ça a été sur le logement. Puis les solidaires, ben c'est pas mal leur cheval de bataille aussi également durant l'ancienne campagne électorale.
C'est l'enjeu sur lequel, parce qu'on le disait depuis les élections, on trouvait Québec solidaire amorphe, ne semblait pas prendre de position, ne semblait pas être présent. Puis c'est avec l'enjeu du logement qu'on est revenu un peu dans les bonnes habitudes, je vais mettre entre guillemets, là, de Québec solidaire, avec notamment l'interpellation de Gabriel Nadeau-Dubois envers François Legault, qui a fait le tour des réseaux sociaux. À ce moment-là, effectivement, crise du logement, mais encore une fois, une élection partielle, c'est quelle machine électorale fait sortir le vote. Et le Parti libéral du Québec, ça, c'est la deuxième analyse qu'on peut en tirer. Qui était la force politique numéro un au Québec depuis une trentaine d'années? N'est plus.
Clairement, ils se sont assis sur leur laurier dans ce secteur-là. Puis c'est une bonne affaire, je pense que ça montre que les QS sont proactifs, qu'ils prennent des notes par rapport à ce qui s'est passé, puis qu'ils veulent faire changer les choses. Tu sais, t'en as parlé, là, ça avait un peu moins bien été dans ce dossier-là. Ils ont fait en sorte que, OK, là, on se reprend. Fait que c'est juste des bonnes nouvelles pour eux, puis ça montre leur proactivité dans certains dossiers.
Là. Ça, c'est sûr, mais c'est vraiment frappant de voir la chute du PLQ, puis c'est le sondeur, un des sondeurs par excellence au Québec, là, Philippe Fournier, qui commentait là-dessus, il disait « La force politique du Parti libéral n'est plus. » C'est un parti qui ne disparaîtra pas par la simple la simple force d'avoir ce désir dans une portion de l'île de Montréal et dans le secteur de Laval, d'avoir cette représentation, surtout au niveau des anglophones du Québec, qui ont bien le droit à l'avoir, mais ça va devenir un parti un peu dans le style de Québec solidaire qui va toucher une cible bien précise de la population et rien d'autre. C'est ce qu'on semble voir là, du côté du Parti libéral. Évidemment, on va attendre de voir leur nouveau chef. Peut-être que ça peut changer le dossier. Mais on parle d'un parti qui avait de la difficulté à aller chercher 10% des Québécois francophones là, au Québec dans les dernières élections. Et ça semble vraiment être un parti qui n'a plus la même machine, autant au niveau du financement que de la sortie du vote, que des bénévoles, que tout ce qui était autour du Parti libéral dans les dernières années. Et on est loin des années de Jean Charest.
Parce qu'on est parti d'une institution, là, ouais. Littéralement, quand il y avait deux partis. Fait que c'était soit rouge, soit bleu. Puis là, de plus en plus, on voit une pluralité de partis, ce qui fait en sorte que les gens, ils peuvent peut-être plus trouver leur niche dans un certain parti.
Puis la force du Parti libéral, dans le temps où c'était presque juste deux partis, c'était de dire, ben nous, on n'est pas pour l'indépendance. T'avais juste besoin de dire ça, puis peu importe le reste de ta plateforme, plus souvent qu'autrement, t'allais gagner. Là, tu peux bien dire ça, puis il y a le montée de l'indépendance, de l'indépendantisme, on le voit, on en parle dans les médias.
Il faut que tu montes un plan sur l'environnement, sur le logement, ben oui. Sur la mobilité durable, sur...
Parce que si tu lèves le drapeau en disant « Regardez, il y a de l'indépendantisme, là, vous devez voter pour nous », ben t'as la CAQ qui lève la main et dit « Ouais, mais vous pouvez voter pour nous aussi ». Nous non plus, on n'est pas pour l'indépendance.
Nous, on a un plan.
Il y a une identité qui est plus définie autour de la CAQ. Le Parti libéral a vraiment besoin de se regarder fort dans le miroir s'ils veulent espérer retrouver un semblant d'importance politique dans les prochaines années, mais c'est clairement pas pour demain. Je veux vous parler d'efficacité dans le réseau de santé un court moment. Christian Dubé, qui était au CHUM à Montréal, dans l'auditorium Pierre Péladeau hier, et il a parlé à plusieurs membres importants du système de santé, que ce soit des membres des syndicats, du personnel hospitalier, des directeurs d'hôpitaux, de CIUS, une salle bondée. Et je vais le citer, honnêtement, parce que je pense que la phrase le mérite. Je le cite. Je vous le dis, là, dans deux semaines, les colonnes du temple vont... Je cherchais un meilleur mot, mais ça va shaker.
Tout le monde le sait. Tout le monde le savait dès que le plan de l'agence a été formulé. Puis ça a été avec tous les plans de la santé depuis le début des temps du Québec. Là. À chaque fois qu'on essaie de renouveler le système de santé, ben faut que tout le monde suive le bateau. Si le syndicat décide de débarquer, ben là... oublie ça, là, ça va dérailler.
Je pense pas que tu pourrais mieux l'expliquer que ce que tu as fait, là, Edouard. C'est vraiment un changement complet. Puis, tu sais, contrairement à des réformes, je pense à la réforme Barrette là, qui a été profondément détestée là, de tous et chacun, là, ça semble assez clair. Agence santé, ça semble vraiment être un changement profond du système, pas simplement des coupures ou autres, là, c'est vraiment un changement profond du système. Est-ce que ce sera pour le bien le mieux? Dur à dire.
On peut-tu être pire?
Oui.
Ben oui.
Oui, j'aurais tendance à dire que oui, on peut définitivement être pire. Là.
Tout est possible.
Ne sous-estime ouais, pas le système de santé.
Vite même.
Ce sera donc à voir. Je pense que l'idée sur papier peut être bonne, même si ça semble contre-intuitif de dire on a un système qui est trop lourd, on va rajouter une autre cause de fonctionnaires, mais d'avoir une espèce d'organisme qui n'est pas assujetti au changement de gouvernement aux 4 ans, ça peut être pertinent. De la même manière qu'on voudrait pas qu'Hydro-Québec soit géré aux 4 ans par des gouvernements différents, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être pertinent là-dedans, à voir si, en pratique... Ce sera aussi efficace.
Encore là, avec l'Agence du revenu, c'est la même chose. On disait on va devenir indépendant, mais c'est pas vrai. Là. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, ben changement des libéraux, ben les bureaux changent, on ramanche un peu la patente, entre guillemets. J'ai le sentiment que ça va être la même chose, encore une fois, avec le système de santé, mais à suivre.
À suivre, bien évidemment. On va prendre une pause musicale et publicitaire sur les ondes de chaise 94.3. Ben, c'est des nôtres.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3. Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Cheese pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Cheese 94.3.
Ce matin, si t'es à l'écoute, c'est que tu t'évites probablement un cours à 8h30 ou un chiffre matinal au travail. Alors étends-toi, repose-toi et laisse l'équipe de l'Allongée t'accompagner pour ce réveil. Ce matin, on te sert une bonne tasse en compagnie de Félix-Antoine Audet, Édouard Dubois et William Amiot.
Sur les ondes de Cheese 94.3. Encore une heure en notre compagnie. pour vous parler d'actualité, divertissement et tout ce qui se trouve entre les deux. Et je suis accompagné à ma gauche. On le retrouve, Édouard Dubois, qui est avec nous.
He's back.
Hey, que ça fait du
Guess
bien.
Guess who's back?
Guess who's back? Back again.
Bon, je sais pas.
Et il rentre dans le studio, William Amiot, qui, lui, ne m'a pas abandonné dans les dernières semaines.
Non, moi, j'étais là.
Oui, oui, oui. T'as quand même pris une semaine de pause, je l'ai pas oublié. Je suis le seul vaillant dans cette équipe-là, je vous dis. Restez des nôtres, hein, parce qu'on a une émission bien remplie aujourd'hui. Dans une dizaine de minutes environ, Katia Bergeron, vice-rectrice de l'Université Laval, sera avec nous. Tout de suite après, on parle à Sol Zanetti, député de Jean Lesage, dans le dossier de la qualité de l'air dans le secteur notamment de Limoilou, de la Basseville et de Vanier. Donc beaucoup de choses à aborder. Avant tout, je veux parler du gouvernement Legault qui semble avoir oublié, un peu comme dans le dossier de la réforme électorale, ses propres promesses. Et c'est dans le dossier de la loi sur la police pour parler de ces fameuses interpellations aléatoires et ce profilage racial qui, plus souvent qu'autrement, malheureusement, en découle. Il y a, je vous rappelle, quelques mois, si je ne m'abuse, une décision qui avait été rendue par la Cour suprême du Canada ou du Québec. Cour suprême du Québec ou du Canada, à vérifier. Mais qui déterminait que les interpellations aléatoires devraient cesser. Quelles étaient essentiellement des encontres aux droits fondamentaux et les libertés de tous et de chacun, particulièrement en lien avec le profilage racial. Et là, il y a un projet de loi qui va être déposé par le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Je vous rappelle, évidemment, là, suite à cette décision, le gouvernement Legault qui avait décidé de porter la décision en appel, qui avait dit qu'il fallait laisser les policiers faire leur travail. Alors, bon, je me suis jamais caché de ma position là-dessus. Là, pour avoir des amis qui en ont été victimes personnellement, je crois que c'est assez clair qu'il y a du profilage racial au niveau des interpellations aléatoires tout particulièrement. J'en ai jamais vécu une seule de ma vie. J'ai des amis, puis c'est un drôle de hasard, qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, qui en ont vécu régulièrement chaque année depuis qu'ils ont un permis de conduire. Ça me semble être un problème, très clair. Là, du côté du gouvernement Legault, ce qu'on dit, c'est qu'on va plutôt encadrer le droit aux interpellations aléatoires dans le code de déontologie, ce qui pourrait aider à blâmer des policiers. C'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Est-ce que c'est trop peu? Probablement. On dit qu'on veut beaucoup investir dans les formations. Et ça, c'est la partie qui me fait rire.
Les fameuses formations.
Peu importe de quel dossier on parle, là, on parle de discrimination, de profilage racial, on parle d'interpellation aléatoire. Là. J'aimerais que quelqu'un, si jamais c'est le cas, là, prouvez-moi que j'ai tort, là, dites-moi-le, j'ai peut-être une mauvaise vision. Parce que j'en ai déjà
T'as
eu
tort.
Là, des formations, que ce soit avec des intervenants, que ce soit avec des formations vidéo, peu importe. Là.
Fais ça sur un coin de table un peu. Là.
Oh ouais. Y a-tu quelqu'un qui prend vraiment ça à cœur, qui s'assoit là, là puis qui dit là, je vais changer toute ma perception qu'il y a.
Ou c'est plus une heure pour être ton seul à manger un café. Manger un café. À manger un beignet avec un café.
Mais c'est pas nécessairement ça, c'est qu'il y a des gens, là. Par exemple, j'ai dirigé un comité universitaire, tu l'as fait aussi, le même comité universitaire que moi. Il y a des formations obligatoires sur les violences sexuelles. Ceux qui sont déjà acquis à la cause, oui, ils vont écouter, ils vont participer, puis ils vont vouloir être là. Et puis c'est peut-être pas un bon exemple là, parce que j'ai pas connu personne dans aucune formation comme ça qui était contre cette cause-là. Là. Mais le principe est que quelqu'un qui en a rien à faire. Là.
Mais je te dirais aussi, c'est d'être attentif à ce moment précis-là,
mais oui,
durant cette formation-là, d'un énorme bagage d'éducation, que ce soit de la naissance dans le milieu familial, jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou X ou Y pour ce qui est des policiers. Là. C'est tout là-dedans là, qui est
c'est exactement ça.
Le profilage racial. Parce que oui, les policiers, mais le profilage racial, il y en a également au sein de la population. Puis c'est simplement qu'on le voit un peu plus avec le corps policier, avec des statistiques.
Ouais.
C'est simplement ça.
Mais c'est vraiment pas un enjeu qui va se régler. Les gens qui sont responsables de ce qu'on voit au niveau du profilage racial. Vous l'avez vécu à votre job, là. Une formation vidéo avec intervenants, là.
Est-ce que vont s'asseoir. Gens en restauration, les règles sanitaires.
Ben oui, ils vont rien dire. Puis c'est pas important, les règles sanitaires, là. C'est pas peu important, mais ceux qui en ont rien à faire vont l'ignorer. Puis ceux qui sont déjà acquis, ben, à la limite, vont porter attention, mais c'est souvent très général. Puis tu vas te dire, ben, ça me semble de base. C'est pas de base pour tout le monde, comprenez-moi bien, là. Mais pour ceux qui sont acquis, ça semble l'être. Puis pour ceux qui le sont pas, ben, ça change pas grand-chose. Fait que moi, ça me fait bien rire quand on va investir en formation, là, de façon massive, vraiment, là, avec des intervenants. Ben, bravo. Ils vont s'asseoir en arrière, ils vont pas dire un mot. Et après ça, ils vont aller dans le char avec leurs collègues qui pensent comme eux, puis ils vont dire « C'était-tu pas niaiseux comme formation? »
De là, d'ajouter une caméra corporelle aux policiers.
Ça, c'est un autre enjeu qui est important. Mais c'est, je vous rappelle, hein, parce qu'il y a eu une grande commission, là, suite à ce qui s'était passé avec George Floyd, le groupe d'action contre le racisme, qui avait été mis en place par François Legault. Lionel Carman, un des ministres du gouvernement, qui avait dit qu'il fallait lutter de façon active contre le racisme. Et il a dit une des choses, les prioritaires qu'on doit faire... Hein, c'est d'arrêter et d'abolir les interpellations aléatoires. Puis maintenant, on est en train de se battre pour garder ce pouvoir-là aux policiers là, du côté du gouvernement Legault.
Ben, je pense que aussi tout ça part de l'école, de l'éducation qu'on va donner à nos policiers. Puis, tu sais, on a quoi? On a une école de policiers qui est forme pour être prête à venir sur le terrain.
À Nicolet, oui.
Faut que ça parte de là. À un moment donné, il faut qu'on fasse des changements puis qu'on se dise là, si y a... parce que s'il y en a autant des policiers, il faut qu'on change. Il faut qu'on fasse de quoi puis que ça part de cette partie-là. Ouais.
J'ai fait les choses à l'envers, mais avant d'aller en pause publicitaire, on va y aller de nos habitudes, tournée d'actualité en compagnie d'Édouard Dubois.
Vous l'avez probablement vu, ce drame à Amqui, le bilan est toujours de 2 morts et 9 blessés. Cette camionnette qui a heurté de plein fouet des piétons dans la petite municipalité près de Rimouski. C'est 6 patients également qui ont été transportés par avion à Québec pour être traités en traumatologie à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Le CHU devrait donner une mise à jour au courant de la journée. Le conducteur Steve Gagnon aurait, selon la Sûreté du Québec, agi délibérément. L'homme de 38 ans est présentement détenu par les policiers et devrait comparaître aujourd'hui. Vas-y.
Ah non, c'est tout. Vas-y, je pensais que t'avais fini, cher.
Les solidaires également l'emportent dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne. Guillaume Clich-Rivard devance les libéraux de 2758 voix avec un taux de participation de 31%, un véritable château fort libéral qui vient d'être battu, imbattu par le PLQ depuis 1990, la date de création de Saint-Henri-Sainte-Anne. La santé publique également qui recommande de diminuer la capacité routière de la capitale nationale dans un rapport publié sur les problèmes de santé des habitants de Limoilou, La Basseville et Vanier. Plusieurs recommandations qui ont été publiées, dont la transition vers la mobilité durable, oui. Et sur le plan énergétique, le gouvernement du Québec investit 60 millions de dollars pour agrandir son réseau de bornes de recharge partout sur les territoires. Un investissement qui devrait augmenter de 370 bornes, le nombre de bornes sur les territoires.
À la météo, William Amiot.
Ben, beau petit cocktail météo aujourd'hui. On parle d'un petit peu de pluie, un petit peu de neige sur Québec. On attend environ 40% d'averse, là, mais c'est quand même un petit pluie, faible neige.
Bon.
Quelque chose qui est pas le fun, là. Ça continue jeudi, on annonce des éclaircies pour demain. Il fait présentement 1 degré sur Québec.
À la circulation, c'est déjà presque mort sur les routes. Rien de bien grave à signaler. Capitale en direction ouest qui est légèrement au ralenti à partir de la 1ère avenue jusqu'à Laurentienne. À part de ça, honnêtement, le même Capitale en direction ouest, il y a rien à signaler. C'est au vert partout sur nos routes. Profitez-en.
Magnifique.
On va en pause musicale sur les ondes de Chiz. C'est l'effet avec plus que au retour, la vice-rectrice de l'Université Laval, Katia Bergeron, pour nous parler de la grève des professeurs de l'université.
J'ai défait mes bagages, me suis débarrassé des tiens. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. J'ai gardé la langue que tu ne comprenais pas. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ce n'est pas de ta faute. En fait, celui peut-être, je ne le dirai pas. Je l'avais dit à toi. Plus qu'elle, je ne le vois. je me suis débarrassé des tiens. À danser tous les soirs, y'avait trop rien, y'avait trop rien. Ce n'est pas de ta faute.
L'Allongée avec Félix-Antoine Audet, William Amiot et Édouard Dubois.
8h46 sur les ondes de Chiz 94.3. Tel que promis, nous ne sommes pas seuls. Édouard Dubois, William Amiot qui sont avec moi, bien évidemment. Mais encore une fois, quelques semaines après notre dernière entrevue, c'est Katia Bergeron, vice-rectrice de l'Université Laval, qui est avec nous. Bonjour, Madame Bergeron.
Bonjour.
Merci de prendre le temps d'être avec nous ce matin. On se mentira pas, on est un peu déçus de se recroiser ce matin. On s'était entendu la dernière fois qu'on s'est vu, on dit on n'aura pas besoin de se revoir, on se dit adieu, merci, bonsoir. Là, on est encore ici. Évidemment, la grève générale illimitée qui a été déclarée lundi par le syndicat des professeurs de l'Université Laval, le SPUL. Où est-ce qu'on en est présentement dans les négociations?
Je dirais que la bonne nouvelle, c'est quand même que les parties sont encore à table. Là. Les pourparlers continuent à se faire. Ça s'est fait toute la fin de semaine. Vous êtes sans doute au courant, samedi, dimanche, encore hier. Puis donc, ça continue. Il n'y a rien d'interrompu au niveau des pourparlers, puis ça chemine. Il y a des avancées qui se font vers éventuellement une entente. Ça fait que... voilà, mais on n'est pas rendu encore là à destination. Ça veut dire qu'il n'y en a pas encore d'entente, puis il y a des points encore là de discussion.
Vous le mentionnez, on n'est pas rendu, ça avance, oui, mais de plus en plus la question, elle se pose et elle se pose très fortement, particulièrement du côté des étudiants. Que va-t-il arriver avec la session? Est-ce qu'on approche d'un point de non-retour pour devoir étirer la session, pour devoir repousser des cours à plus tard dans l'année?
Ça va dépendre des cours. Il y a des cours qui sont très impactés depuis le début de la grève où est-ce qu'il y a à peu près aucune activité qui se fait. Puis on le sait, il y a des cours qui se déroulent normalement. Ça veut aussi dire qu'il y a des étudiants qui sont très touchés par la grève, puis il y a des étudiants qui sont très peu touchés par la grève. Bon. Tout ça veut dire que quand on va arriver à la fin de la grève, il va falloir vraiment avoir un plan de continuité des activités de cours, mais selon la réalité du cours. Donc, pour bien répondre à votre question, là, dans les cours qui sont très touchés, on peut penser à ce moment-là que on va essayer de reprendre la majorité des activités le plus rapidement possible. Mais là, au point où on en est rendu, c'est pas exclu là, de penser que ça va déborder un peu au-delà du 30 avril. Mais moi, ce que j'ai le goût de dire à nos étudiants, c'est que Je suis très, très consciente là, de tous les engagements que vous avez après le 30 avril. Puis il y en a que c'est leur diplôme. Là. Dans quelques semaines, c'est leur diplôme qu'ils attendent. Mm-hmm. Puis il y en a plusieurs que c'est des emplois. Il y en a qui partent de la Ville de Québec pour retourner chez eux.
Des étudiants étrangers.
Il y a des étudiants étrangers de l'international qui retournent dans leur pays. Il y a tous ces cas-là. Puis j'en suis extrêmement consciente, ce qui fait en sorte que ce que je voudrais qu'on soit capable de mettre en place pour vous autres, là, c'est de pouvoir continuer les cours, les examens, mais vous offrir des modalités qui vont faire en sorte, qui vont vous donner la flexibilité dont vous aurez besoin aussi pour continuer. Alors, nous, on souhaiterait évidemment que tout se fasse dans les délais normaux, mais on voit bien là, que plus la grève s'étire, puis moi, je le dis tout le temps, chaque jour compte, là, plus la grève s'étire, plus il y a ce risque qu'on doive déborder au-delà de la session. Mais on va essayer de le faire dans des modalités qui vont vous permettre de concilier vos engagements puis la formation. Fait à quoi je pense? Bien, je pense notamment aux formules à distance, formules numériques. Tu sais, on l'a expérimenté pendant la pandémie. On a eu à faire ça. Alors, peut-être que ce sont des moyens qu'on pourra déployer à nouveau vu la situation dans laquelle on sera.
Parce que là aussi, il risque d'y avoir une... Bien, en fait, il y a une session d'été. Comment qu'on va faire pour comme coaguler tout ça ensemble? Session été, débordement, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait?
Bien, tous vos, tu sais, vos professeurs vont vraiment être sensibles à ça aussi. Moi, je n'en doute pas, là. Et puis, une des questions importantes qu'on va devoir se poser, là, quand, là, on ne connaît pas la date de fin de grève. On ne sait pas exactement, on va avoir combien de temps devant nous. Mais il va falloir vraiment se poser la question pour chaque cours, comment on peut faire en sorte qu'on vous offre une formation de qualité tout en se concentrant sur les apprentissages essentiels. Aller vraiment vers ça, tout en respectant un rythme d'apprentissage qui est raisonnable pour les étudiants aussi. L'idée, c'est pas de tout condenser en une semaine non plus. Il faut que ce soit raisonnable pour l'étudiant. Mm-hmm. Mais cette conversation-là, on va l'avoir avec vous autres. Le plan, là, c'est aussi que quand on va recommencer, on va se parler là, entre nous. Puis quand je dis entre nous, je parle pas de la haute direction de l'université, je parle vos profs avec vous autres. Ce qu'on va vouloir, c'est avoir une conversation avec vous autres pour mettre en place le bon plan.
Il y a un autre enjeu, je pense, qui est quand même assez important. Je côtoie en masse d'étudiants là, dans mon emploi ici à Chiz et je l'entends régulièrement, celle-là, en temps d'inflation particulièrement, du côté d'étudiants qui sont, on s'entend, pris à la gorge financièrement. Vous avez deux bons exemples à côté de vous. William Amiot, cette session-ci, qui a payé 2513 $ pour ses frais de session. À votre droite, vous avez Édouard qui a payé 2211 $ pour ses frais de session et qui voit la qualité de leur enseignement qui est impactée. Évidemment, puisqu'ils n'ont pas certains de leurs cours, la moitié dans leurs deux cas. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour essayer de soulager ce qui est une dépense qu'ils ont fait et... disons-le, strictement sur un point financier, il n'y a pas retour sur investissement en ce moment-là.
Mm-hmm. Mais à l'heure actuelle, on garde le cap, par exemple, sur vous la donner, là, cette formation-là. Ce qu'on veut,
mais en version accélérée ou en version différente de ce qu'on a payé à la base.
Mais on ne veut pas sacrifier la qualité. On veut vous offrir une formation de qualité puis que quand dans chacun des cours que vous allez diplômer, que vous diplômiez avec les compétences qui sont attendues là, de ce cours-là. C'est qu'on n'est pas dans une logique ici là, de tout couper les coins ronds puis que vous finissiez un cours à moitié. Ce qu'on veut, c'est vraiment de vous l'offrir, cette formation de qualité-là. Puis oui, il y a un bouleversement puis les modalités ne sont pas celles qu'on prévoyait au début janvier. Mais on veut quand même vous amener au bout de votre parcours. Puis pour moi, ça, c'est pas juste cocher une case, là. C'est vous amener avec un niveau de formation qui est celui auquel vous pouvez vous attendre. C'est ce cap-là qu'on garde, c'est cet objectif-là.
Pour terminer l'entrevue, j'ai quelques questions. Je vais faire la même chose avec le SPUL cette semaine qu'on veut vous donner essentiellement. L'occasion de répondre à, parce que c'est une guerre d'information un peu d'une certaine manière, là, une négociation. Puis on va donner la même opportunité au SPUL, mais on va y aller avec certaines des attaques du côté du SPUL. Vous me dites, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, puis vous donnez votre point de vue là-dessus. Est-ce que c'est vrai que les professeurs de l'Université Laval sont parmi les moins bien payés dans les universités de recherche au Canada?
Il est très important, là, ici, de se comparer dans les salaires avec notre réalité québécoise. Puis moi, je vais vous amener à réfléchir ici au fait qu'au Québec, on a fait un choix de société très important, qui est celui de rendre nos universités à accessible. Puis ça, là, en Amérique du Nord, on est probablement là, l'endroit où on a fait ce choix-là de la façon la plus affirmée. Présentement, là, les professeurs, dans leurs demandes salariales, les demandes qu'ils ont depuis le tout début, vous savez, nous autres, on répond tout le temps, on n'a pas cette capacité de payer-là. On n'est pas capable de payer ces montants-là. Savez-vous ce que ça représente? Je vous donne un ordre de grandeur, ce que ça représente, ces montants-là qui sont demandés. Puis je vais vous donner quelque chose qui vous parle, vous autres. Vous venez de me parler de vos droits de scolarité, les frais de scolarité. Si on voulait financer, là, t'sais, avoir cette, l'ordre de grandeur, il faudrait que nous augmentions vos frais de scolarité de 50 %. C'est-à-dire, prenez vos frais de scolarité, faites x 1,5 à chaque session pendant les 4 prochaines années. C'est ça que ça coûterait pour financer la demande salariale qu'on a présentement. Je suis pas en train de vous... On ne joue pas là, sur les frais de scolarité. C'est pas ça que je dis. Là. C'est réglementé. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Il y a à 56 000 étudiants, fait x 1,5, c'est beaucoup d'argent. C'est qu'on n'a pas cette capacité de payer là. Les demandes salariales, présentement, ne sont pas réalistes pour l'université.
Bon, ben la porte, elle est grande ouverte vers la deuxième attaque du SPUL. Avez-vous réellement des profits excédentaires de 257 millions dans les dernières années, comme
non.
le SPUL l'affirme?
Il n'y a pas... Ces soldes-là, là, ils n'existent pas. Le calcul ou le chiffre avec lequel le syndicat est arrivé, c'est qu'ils ont additionné, ici sur une, je pense que c'est sur une période de 5 ans, des montants de fin d'année. Mais il faut comprendre que ces montants de fin d'année-là, c'est des sommes qui sont engagées pour l'université. On les dépense parce qu'on les retourne dans les facultés. Quand il y a des montants comme ça, on les retourne pour toutes sortes de projets. Puis ça peut être... Il y a plein de choses, là, il y a plein de développements qui se fait dans les facultés. Mais je vais vous donner un exemple qui touche directement les professeurs. Des fois, là, c'est de l'argent qu'on retourne pour faire... pour pallier des fois à certaines interruptions dans des subventions de recherche, pour faire des fonds de démarrage, des choses comme ça. Ça fait que on ne peut pas additionner ces montants-là comme ça. Le seul montant qui a un vrai sens, c'est celui de la dernière année. C'est comme dans vos comptes en banque. Là. Vous ne pouvez pas regarder ce que vous aviez à une date fixe pendant 5 ans puis dire, ben j'ai tout cet argent-là. Vous l'avez dépensé. Il y a juste l'argent de l'année en cours qui est réel. Alors, c'est pour ça que je dis que... Puis il n'y a pas de solde caché. Je vais finir en vous disant que l'université, là, elle est auditée sur ses états financiers. Tout est vérifié par des firmes qui ont certifié que tout est conforme. C'est qu'il n'y a pas cet argent-là, ce fameux solde-là. Là, c'est une mauvaise interprétation ici des chiffres.
Alors, terminons avec ma dernière question en lien avec les attaques du côté du SPUL. Est-ce vrai que nous sommes l'une des seules universités, encore une fois au Canada, à avoir connu une baisse du personnel enseignant et une hausse du nombre d'étudiants, ce qui amène à la demande du SPUL d'augmenter d'une centaine de postes le nombre d'enseignants afin de contrer la surcharge?
Mais ce qui est important, là, c'est de regarder tout le travail qui a été fait dans les dernières années. Puis ça, je vous encourage là, vraiment à regarder puis à faire. Parce que dans les dernières années, ce qu'on constate, là, c'est une hausse. Il y a eu vraiment énormément de travail de fait dans les dernières années à l'université pour bonifier là, au niveau du corps professoral puis faire de l'embauche. Regardez, je vais terminer là-dessus moi aussi. Dans la convention collective des professeurs, il y a un plancher d'emploi qui est à 1280. Professeurs. Puis ça, c'est un chiffre qui a été négocié avec les professeurs. C'est pas une décision de l'université, c'est une entente qu'on a toujours pris là, dans les conventions passées, 1280. Présentement, l'université a 1312 professeurs. Donc, on en a significativement plus que le plancher d'emploi. Donc, on ne s'est pas empêché d'embaucher des professeurs en se disant on va garder ça au minimum. On est allé au-delà des obligations de la convention collective. Fait que moi, je trouve que ça démontre quand même cette bonne foi de dire on embauche là, selon les besoins.
Et pour ce qui est des étudiants, ça a augmenté quand même drastiquement. On parle de quoi? Combien?
Oui, il y a eu une augmentation là, du nombre d'étudiants. Mais quand on regarde les chiffres, par exemple, de la grosseur, de la taille des classes n'a pas nécessairement augmenté. Mais n'oublions pas aussi qu'à l'université, là, il y a plusieurs corps d'emploi qui déploient aussi la mission d'enseignement. Il y a les professeurs, mais il y a des chargés de cours aussi qui contribuent beaucoup à déployer cette mission. Ceci étant dit, L'encadrement au cycle supérieur est quand même, c'est une charge qui est lourde pour les professeurs. Puis il y a eu beaucoup de discussions à la table pour mettre en place des mesures d'appui.
Madame Katia Bergeron, vice-rectrice à l'Université Laval, merci beaucoup de votre temps. On espère que cette fois, c'est la bonne et qu'on ne se reparlera pas d'ici quelques semaines.
Vous avez bien raison. On va garder espoir et on va garder le cap là-dessus. Merci.
Merci à vous. On s'en va en pause publicitaire et musicale sur les ondes de Chiz 94.3. Au retour, le député de Jean Lesage, Sol Zanetti, est avec nous pour parler de la qualité de l'air dans le secteur de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville de Québec.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonsoir chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non.
Ah chérie, j'arrive. Qu'on sort du four, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben!
Ça serait-tu bloodbath?
me réveille ce matin? Si t'es à l'écoute, c'est que tu t'évites probablement un cours à 8h30 ou un chiffre matinal au travail. Alors étends-toi, repose-toi et laisse l'équipe de l'Allongée t'accompagner pour ce réveil. Ce matin, on te sert une bonne tasse en compagnie de Félix-Antoine Audet, Édouard Dubois et William Amiot.
9h04 sur les ondes de Chiz 94.3. On a dans quelques minutes avec nous le député de Jean Lesage pour Québec solidaire, Sol Zanetti, qui est au bout du fil. Mais avant toute chose, petite tournée d'actualité en compagnie d'Édouard Dubois.
Vous l'avez probablement vu hier, drame à Amqui. Le bilan est toujours de 2 morts et 9 blessés. Cette camionnette qui a heurté de plein fouet des piétons dans la petite municipalité près de Rimouski. 6 patients ont été transportés par avion à Québec pour être traités en traumatologie à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Le CHU devrait donner une mise à jour au cours de la journée. Le conducteur Steve Gagnon aurait, selon la Sûreté du Québec, agi délibérément. L'homme de 38 ans également est présentement détenu par les policiers et devrait comparaître aujourd'hui. Les solidaires l'emportent dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne. Guillaume Clich-Rivard devance les libéraux de 2758 voix avec un taux de participation de 31%. Véritable château fort libéral, c'est la première fois que le PLQ ne l'emporte pas dans cette circonscription depuis 1990. Également, sur le plan énergétique, le gouvernement du Québec investit 60 millions de dollars pour agrandir son réseau de bornes de recharge partout sur le territoire. Cet investissement devrait permettre d'ajouter près de 370 bornes de recharge rapide au Québec, qui en compte déjà 1200.
À la météo, William Amiot.
Une petite... ça rimait? Oui, ça rimait. Une petite variation météorologique. Aujourd'hui, on parle d'un petit peu de pluie, un petit peu de neige. On avoisine la normale. On est à 0 degré aujourd'hui en maximum. Et aujourd'hui, en ce moment, il fait 1 degré.
Du côté de la circulation, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Il n'y en a pas présentement dans le secteur de Québec. Rien à signaler. Ça pourrait faire plaisir à notre prochain invité, Sol Zanetti, qui est avec nous, député de Jean Lesage. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous? Merci de prendre le temps d'être avec nous.
Ben, ça fait plaisir.
Avant d'aller dans le sujet principal de notre entrevue, on est là pour parler évidemment là, du rapport sur la qualité de l'air dans le secteur de Limoilou, de la Basseville et de Vanier. Je pense qu'un peu de félicitations sont en ordre. C'était la partielle hier dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Vous êtes allé chercher votre 12e candidat à l'Assemblée nationale, votre 12e député. Est-ce que c'est un baume après une élection qui a peut-être été un peu plus difficile qu'anticipé?
Oui, c'est vraiment une joie là. En plus, Guillaume Clich-Rivard, bon, c'est un avocat spécialisé en immigration qui est vraiment qui va faire un excellent député. Puis c'est ça. Pour nous, on pensait qu'on avait des chances de gagner, mais que ce serait serré. Puis finalement, on a gagné par 15%. Donc ça montre que ben il y a un vent de changement. Puis en même temps que nos militants, notre gang de militants est vraiment efficace sur le terrain aussi, puis que, en tout cas, c'est très rassurant pour la suite, je dirais.
Là, juste parce que on se posait la question sur l'aspect technique, là, vous avez votre 12e député à l'Assemblée nationale, ce qui fait que sans même les nécessités de négociation, vous êtes un parti officiellement reconnu. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de votre temps de questions que vous aviez déjà négocié de vos budgets, ouais, ou est-ce que ça va rester similaire?
Ben, ça reste à voir. Très certainement, on devrait avoir un petit peu plus de temps, puis au moins un bureau de plus, puis certainement les ressources nécessaires pour un député de plus en termes d'employés, parce que mais c'est je l'imagine, on va le voir, mais on était déjà en vertu de l'entente qui avait été négociée, un parti reconnu. Donc par rapport à ça, ça changera pas grand chose. Mais j'ai hâte de voir. Sur le temps de parole, ça aura une petite influence. Est-ce que ça va nous donner une question de plus par jour? Je sais pas. Mais j'ai hâte de voir. On va en faire bon usage, quoi qu'il arrive.
Allons directement là, dans le sujet, la raison pour laquelle on se parle. Un rapport a été dévoilé hier sur la qualité de l'air dans la ville de Québec, qui était attendu depuis des années. On apprend notamment dans les révélations les plus chocs là, que les particules fines cause dans la ville 20 cas d'asthme chez les enfants à chaque année et 33 décès prématurés par maladie cardiaque ischémique par année. Êtes-vous surpris des déclarations du rapport?
Ça correspond à d'autres données qu'on avait. Je suis pas étonné. Je suis content parce que c'est une voix scientifique de plus qui vient vraiment là faire de la pression sur le gouvernement de la CAQ pour il se passe quelque chose, enfin, après 10 ans de chaudes luttes et des décennies aussi de luttes avant ça pour une meilleure qualité de l'air à Québec, là. Donc, mais je suis pas très surpris. Puis ça, c'est, vous avez parlé d'une trentaine de décès pour les maladies cardiaques ischémiques, mais de façon générale, c'est près de 260 morts prématurées dans la capitale nationale qui sont liées à la pollution atmosphérique. Donc, tu sais, c'est vraiment un gros, gros, gros problème de santé publique, puis il faut qu'on fasse des choses pour régler ça.
Là, on a mentionné plusieurs acteurs responsables du côté du rapport. Les poêles à bois ont été visés, la circulation automobile a été visée, ainsi que les industries polluantes dans les environs, notamment évidemment le port de Québec. Pour vous, quelle est la priorité à la suite de ce rapport-là? Qu'est-ce qui doit être visé en priorité?
C'est vraiment la question de du transport automobile, là, les particules fines qui sont issues de la combustion, du transport automobile de voitures à essence, mais aussi, par exemple, des bateaux de croisière à quai qui sont extrêmement polluants, les locomotives qui brûlent du carburant extrêmement polluant aussi dans le coin, dans la basse ville, surtout quand ils se promènent à basse vitesse. C'est l'ensemble du transport. Le rapport est assez clair. Il dit il faut qu'on diminue la capacité routière. Ils disent même qu'il ne s'agit pas de juste changer les voitures à essence pour des voitures électriques. Ça ne suffira pas. Il faut faire une transition modale là, pour vraiment améliorer le transfert vers le transport collectif et le transport actif. Il faut diminuer le nombre de voitures. Donc, ils disent, dans le fond, il faut ne plus faire aucun projet qui augmenterait la capacité routière, pour même réduire la capacité routière. Alors là, ça, c'est un sérieux problème pour la CAQ, parce qu'on le sait, leur projet de troisième lien autoroutier, ça amènerait 40 000, 50 000 voitures de plus au centre-ville à chaque jour. Et aussi, on en parle moins souvent, mais tous leurs projets qu'ils appellent le REC, là, qui sont finalement des élargissements de toutes les grandes autoroutes allant en périphérie dans la capitale nationale, ça aussi, ça aurait un effet catastrophique sur l'augmentation du nombre de véhicules au centre-ville. Et pour moi, ce rapport-là vient dire à la CAQ, vous devez changer complètement de stratégie parce que sinon, vous le faites aux dépens de la santé du monde et il va y avoir des morts. Il y a des morts à cause de la qualité de l'air.
Pensez-vous que ça impactera d'une façon ou d'une autre les décisions de la Coalition Avenir Québec dans le dossier du troisième lien?
Il faut que ça ait un impact. Il faut que ça fonctionne. Je pense que jusqu'ici, les arguments, disons, environnementaux ne les ont pas touchés assez. Là, j'espère que les arguments liés à la santé, puis vraiment à des questions de vie ou de mort, vont ébranler leur dogmatisme, là, et il va falloir que ça se passe. Même si aujourd'hui, bon, hier, ils disaient, ah, on va investiguer, on va analyser le rapport, blablabla, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils peuvent pas dire qu'ils se foutent de la santé. Ils peuvent pas dire 260 morts par année, c'est pas grave, on peut en prendre un peu plus. Ils peuvent pas dire ça. Puis je pense que de plus en plus, les gens ne vont pas accepter qu'ils fassent fi de la pollution atmosphérique. Et je pense que cette pression-là croissante va avoir un effet. Il faut que ça en ait un parce que. Ouais. Sinon, on est vraiment mal barré.
Évidemment, en transport, là, on comprend, du côté de Québec solidaire, on demande qu'on arrête le projet de troisième lien, qu'on élargisse pas les autoroutes et qu'on augmente le transfert en transport durable. Pour le reste, parce qu'il y a quand même d'autres facteurs qui ont été nommés, c'est quoi les solutions selon vous?
Ben, il faut maintenir la pression sur le port de Québec pour qu'il y ait une manutention du vrac, des métaux de vrac qui soient plus efficaces. Ça, le rapport le dit aussi, je suis bien content de ça. Bien sûr, la réglementation sur les poêles à bois qui sont pas conformes, effectivement, là, il y a déjà des choses en place. Je pense qu'il faut accélérer ça. La question de l'électrification des transports lourds comme la locomotive puis les bateaux qui arrêtent à quai à Québec, ça c'est vraiment une source de pollution incroyable. Et aussi la mise à niveau puis la mise aux normes, dont l'amélioration de l'efficacité énergétique du transport lourd, là, c'est-à-dire tous les camions qui transportent des marchandises, les gros camions. Souvent c'est des flottes de camions qui sont très vieilles. Bon, c'est ça l'avantage d'être fait pour durer longtemps, mais en même temps souvent ils sont très vieux puis ils sont extrêmement polluants. Ils émettent beaucoup de particules fines. Alors, il faut réduire toutes ces choses-là. On parle aussi par rapport à l'incinérateur de Québec qui émet beaucoup de particules fines et de polluants. Il faut réduire les déchets à la source. Alors ça, c'est vraiment important. Je sais qu'il y a un centre de biométhanisation qui est mis en place, puis qui commence. On va voir s'il fonctionne. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir vraiment démarré. Mais il va falloir que, si ça marche pas, on trouve d'autres solutions puis qu'on réduise absolument la quantité de matériel qu'on va brûler dans la base ville. Parce que, finalement, en base ville, on finit par brûler les déchets de toute la capitale nationale. Ça n'a pas de bon sens.
D'ailleurs, là, bon, vous représentez un des quartiers qui est le plus gravement affecté dans la ville de Québec, dans le coin de Limoilou. Et on a entendu la conseillère municipale Jackie Smith dire aux gens ne déménagez pas dans ce secteur-là si vous avez des enfants. Si vous habitez déjà là, essayez de regarder peut-être de déménager encore une fois si vous pouvez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration de Mme Smith?
Je pense que la solution, c'est de pas déménager, c'est de se battre pour qu'on améliore la qualité de l'air, parce que c'est pas vrai qu'on peut vider ce quartier-là. Là. Je veux dire, ça serait des dizaines de milliers de personnes à relocaliser en pleine crise du logement. La solution la plus économique, la plus rapide, puis la plus saine et la plus logique et la plus sage, c'est clairement de lutter contre la pollution avec des mesures drastiques. Là.
Peut-être pour terminer, êtes-vous rassuré des analyses dans le dossier du nickel du côté là, de la santé publique qui estime que les risques sont très faibles et que ça causerait moins d'un cas de cancer sur 70 ans dans la population locale? Ça a fait couler beaucoup d'encre, on le sait, là, la hausse du côté des quotas du nickel. Est-ce que vous êtes rassuré?
Pas vraiment, dans le sens où même s'il y a un peu de cancer, c'est sûr que lié à tous les autres sources de pollution, ça contribue à des problèmes de santé importants. Puis la santé publique maintient sa position qu'elle avait énoncée l'année dernière sur son opposition à la hausse de la norme de nickel. Donc, elle est toujours opposée à cette hausse-là qui a eu lieu. Il continue de dire qu'il faut diminuer le plus possible la pollution due par le nickel en forçant le port à améliorer sa manutention. Donc, moi, je suis pas tant rassuré, mais je suis content que la santé publique maintienne la pression sur le port par rapport à ça.
Bien, merci beaucoup, Sol Zanetti, député de Jean Lesage pour Québec solidaire. Toujours très apprécié de vous avoir avec nous.
Un grand plaisir. Merci. À la prochaine.
Merci. À la prochaine. On va en pause musicale sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Oli Laroche avec Le Secret. Restez des nôtres.
écoutez L'Allongée avec Félix-Antoine Audet, William Amiot et Édouard Dubois.
9h19, une émission qui a flyé. Hein?
Je suis le seul qui a entendu une espèce de klaxon.
Non, c'est juste la fin du solo de guitare. On dira pas ça au chanteur. Tu trouvais que son solo de guitare semblait un klaxon?
Ben, mais... pète un klaxon.
OK.
Appelez ça comme vous voulez.
William Amiot, mesdames et messieurs.
Il est dû pour manger un café, toi.
Oui. Il est dû pour... On lui donne des grains de café, littéralement. Croque, croque, William. Non, à peine 10 minutes restantes à cette émission. Qui aura vraiment fly, disons-le, en bon québécois. Là, ça aura été assez rempli. On va probablement ressortir les entrevues avec Katia Bergeron particulièrement, peut-être même avec Sol Zanetti sur notre site web, vous y aurez accès. Mais terminons quand même. On a appris qu'il y a quelques jours que BMO allait racheter les Air Miles au Canada. Donc les Air Miles qui semblent s'enligner pour disparaître. Vous allez pouvoir quand même là, les échanger contre certains programmes encore pour un petit moment. Acheter de la nourriture au GA, vous allez pouvoir encore, pendant un petit moment, vous allez pouvoir échanger contre le programme Moi ou Jean Coutu. Il y a plein de programmes là-dessus. Et je vous invite à vous renseigner, là, à regarder, parce que, bien évidemment, si vous voulez pas perdre ces Air Miles-là, il y a tellement de gens qui ramassent tellement de points là-dessus. Ce qui m'a même demandé... Je suis la seule maudite personne sur la planète Terre qui en a rien à faire des programmes de fidélité. De tout et de rien.
Absolument pas.
OK.
Je confirme que la seule carte que j'ai dans mon portefeuille, c'est mes cartes de débit puis de Visa.
Est-ce que c'est juste parce qu'on est jeune? C'est-tu juste ça? C'est-tu qu'on est insouciant?
Non, je pense pas.
Quand je vais au métro, là, j'ai toujours l'impression d'avoir un léger jugement. Quand on me dit métro, les cartes points,
carte M, oui.
Ben non. OK. Chaque fois que je vais quelque part, Air Miles.
Saint Plus, IGA.
Ouais, Saint Plus.
Canadian Tire. Avez-vous de votre carte Triomphe?
Ah, ça je l'ai. Ça je l'ai par contre.
Ah, chez moi.
Ouais, mais Canadian Tire, ça c'est mon bébé.
On trouve de tout là-dedans.
Oui. Moi, j'étais celui qui collectait l'argent quand j'étais jeune. Mes parents me donnaient le petit argent Canadian Tire. Là, c'était des billets. Là.
Oui, oui, oui.
Je gardais ça dans ma chambre. Puis, quand est venu le temps de quitter le cocon familial, j'ai retrouvé ces petits billets-là.
Hey, gardez, ça va peut-être vouloir cher.
Honnêtement, je devais avoir pour à peu près 50$ Canadian Tire.
Non.
Petite anecdote.
Avez-vous vu passer ça? À un moment donné, quelqu'un qui a vendu un billet de Canadian Tire genre de 1975 pour 4000$.
Je devrais.
Garder les collectionnables, c'est l'enfer.
C'est,
hein?
C'est ridicule.
Mais non, tu peux dire. Moi aussi, j'ai travaillé au Canadian Tire pendant quelques années.
J'aimerais ça.
Bon, non.
Ça sent bon.
Non, mon Dieu Seigneur, tu sens le pneu quand tu pars de là. Je travaillais même pas des pneus, là. J'étais dans le saisonnier, puis je sentais le pneu pareil, là.
C'est ça la petite odeur que tu dégages.
Sentais le Goodyear.
Ça fait 5 ans, c'est pas parti. Je sens encore le pneu, même
c'est
pas c'était
ça, le bonhomme Michelin, là. Ça sentait.
Non. C'était particulier. Le grand défaut de travailler dans le saisonnier, c'est surtout durant le temps de Noël. Tu es couvert de paillettes en terrible. Tout temps.
Ben, à toutes les saisons. Tu changes tout le temps ton stock à toutes les saisons.
Oui, mais les paillettes, c'est les affaires de Noël.
Oui, je sais, mais à l'Halloween, t'es dans un costume.
Mais amener des paillettes dans ses cheveux, ben, pour ma part, c'est quelque chose. Tu vas juste magasiner une fois, tu retrouves des paillettes 3 jours plus tard.
Ah, c'est l'enfer.
Je peux même pas imaginer de travailler.
Puis, c'était à capoter. Et la pire chose, je pense, je suis quelqu'un qui adore Noël. Okay? Je tiens à le préciser. J'aime Noël de tout mon cœur. Je suis un enfant. Mon sapin de Noël est resté jusqu'en fin février. J'adore Noël. Il est installé. Tu sais, moi, le 1er novembre, je suis en mode Noël. Il y a une exception à mon amour de Noël.
Ta blonde.
Tabarouette. Non, j'aime gâter ma blonde à Noël aussi. J'aime passer Noël avec ma blonde. Non, il s'agit des maudites musiques de Noël. Parce que quand tu travailles au Canadian Tire durant le temps de Noël, comme n'importe quel commerce au détail, tu as la radio qui joue, pis c'est juste des tunes de Noël. Là. Mais rajoute que quand tu es dans le saisonnier, absolument toutes dans ton département jouent des tunes de Noël.
C'est pas tout compliqué. Le temps les 10 mêmes tunes.
Ah oui, puis t'as comme un sapin qui joue des tunes de Noël, puis t'as des jouets pour enfants qui jouent des tunes de Noël, puis t'as des barbecues qui jouent des tunes de Noël. Toutes jouent des tunes de Noël. Fait que t'as une constante répétition de 3-4 tunes de Noël en même temps, constant, pendant justement, j'étais au cégep dans ce temps-là en plus, donc t'as un long congé des fêtes au cégep. Pendant un mois à travailler temps plein, t'entends ça en repeat, en loop, 3-4 tunes à la fois. L'écœur en titre est plus que forte.
Faudrait voir des statistiques, ce qui est des démissions.
Liées
au tonne de Noël, dans le coin de janvier, à peu près, là, quand les rigodons commencent. Non, aucune chance. Je sais pas.
Ah, ça, c'est catastrophique. Tout ça pour dire, écoutez, oui, voulait parler des Hermès.
Les Hermès.
Oui, les fameux Hermès, mais toutes ces cartes de points, là, je sais pas si on est des grands perdants. Je sais pas à quel point on a peut-être perdu des milliers de dollars depuis toujours. Là. Ne serait-ce que ma carte de crédit que j'utilise très peu, j'ai eu à quelques reprises des retours avec des points.
C'est ça, c'est qu'eux autres, ils veulent te forcer à acheter ultimement puis à faire encore plus d'argent avec les compagnies avec qui ils font affaire.
Ben, c'est sûr que t'es une compagnie, tu fais pas ça pour perdre de l'argent. Là. Ils sont gagnants au change, c'est la raison pourquoi ils ont ça. Mais est-ce que je peux être gagnant au change aussi? Je sais pas. Mais je me demandais, j'étais-tu fou? J'étais-tu la seule personne sur la planète Terre? Bon, merci, Will. C'est très apprécié.
C'est un plaisir.
Mais je suis heureux de savoir que je ne le suis pas. Je termine rapidement. J'en ai parlé hier des résultats en tant que tels, les Oscars, qui se sont terminés. Everything Everywhere All at Once, qui est le grand champion de ces Oscars-là avec 7 remises de prix. Excusez-moi, petit hoquet. Okay.
Ça le touche.
Oui, vraiment profondément. J'ai adoré ce film-là. J'ai cru comprendre que vous l'avez pas vu.
C'est niveau culturel, je suis pas nécessairement la personne la plus à jour. Souvent, gagne un Oscar, ça me dit, faudrait peut-être que je l'écoute.
Peut-être.
Gagne un Oscar, c'est pas encore sur Netflix, je l'ai pas vu encore.
Il est sur Prime.
Super.
Celui-là, c'est là que je l'ai écouté. Mais non, un film absolument spectaculaire. J'en ai déjà parlé. J'irai pas en long et en large là-dessus. Mais. Une des choses que je veux mentionner, c'est la hausse de cote d'écoute. Du côté des Oscars, on a eu les chiffres aujourd'hui. C'est en hausse pour une deuxième année consécutive. Et je pense que ce n'est pas étranger à Everything Everywhere All at Once. Pourquoi? L'explication simple que j'ai à vous donner, qui est mon humble opinion, là, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que c'est rare qu'un film comme celui-ci ait mentionné aux Oscars. Ce n'est pas un film que tu t'imagines comme grand gagnant des plus grandes catégories. Parce qu'il a gagné 7 prix. Là. Des fois, tu vois un film hollywoodien gagner 7 prix, mais c'est maquillage, trame sonore, meilleure chanson. Puis il n'y a pas un acteur, puis il n'y a pas un scénariste qui a gagné un prix là-dedans. Là. Ça arrive. Là. Tu vas le voir des fois avec des films de Marvel, des films
Avatar.
C'est pas nécessairement pour la qualité du film en tant que tel, c'est pour les aspects techniques. Là, c'est peut-être pas une grande production hollywoodienne. Là. C'est un film avec un léger budget de 25 millions. Mais c'est pas une espèce de... comprenez-moi bien, c'est dans mes films préférés, là, mais c'est pas un drame avec deux personnages qui sont dans la même pièce tout le long. Là. C'est un film absolument...
Éclaté,
oui. Puis j'allais utiliser un autre mot un petit peu moins propre. Là. mais complètement éclaté. Science-fiction, un film de genre, c'est rarement quelque chose que tu vas retrouver dans les plus grosses catégories aux Oscars. Sans oublier toutes les histoires qui venaient avec ça. Mais ça fait, c'est ce que les Oscars tentent de faire, de se réinventer un peu, puis d'aller rejoindre un peu plus le monde. Un film qui touche pas mal plus de monde. Je me considère comme un cinéphile, comprenez-moi bien. The Well, je l'ai adoré. Mon film préféré de tous les temps, c'est 12 hommes en colère. C'est 12 personnes dans une pièce qui bouge pas de là pendant 1h30 en noir et blanc.
Wow.
Okay? C'est un superbe film.
C'est sur Netflix?
Je ne crois pas. Le point étant que c'est quand même un film qui va rejoindre beaucoup plus les gens, beaucoup plus en action, beaucoup plus en humour. Et ça va certainement amener les gens à s'intéresser. Parce que quand tu dis aux gens, ce que t'écoutes, c'est de la merde, voici ce que tu devrais écouter puis aimer, savez-vous quoi? L'art, c'est subjectif. La majorité des gens, c'est pas ça qu'ils aiment, puis c'est bien correct. Moi, j'apprécie ça. Ça veut pas dire que tout le monde devrait triper sur les films sur lesquels je trippe. Et ça, c'en était un superbe qui parle beaucoup plus au monde et qui a accordé l'attention. Je suis désolé, mais je suis pas mal sûr que c'est la dernière fois qu'on va voir un film gagner la catégorie meilleur film avec une scène où les gens ont des hot dogs à la place des doigts.
Ça, j'ai hâte de le voir.
Merci, bonsoir. William Amiot, un plaisir.
Un plaisir partagé.
Édouard Dubois.
Un plaisir aussi.
Tu vas-tu être de retour la semaine prochaine?
C'est exactement ce que j'allais dire. Nouvelle de dernière heure, je serai présent.
C'est des farces, je vais être là.
Oh wow! Vous avez entendu ce rendez-vous mardi prochain, 8h, même heure, même poste sur les ondes de Chiz. Merci d'avoir été là.
Semaine, la semaine prochaine, c'est good. Des désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie, j'arrive!
Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de Legally Blonde? Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vas dans Suits? Tu es simplement intéressé.